With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mademoiselle a 15 ans depuis le 1er octobre 2020. Alors pour fêter cet anniversaire malgré la pandémie, l'équipe s'est retrouvée sur Twitch pendant pas moins de 15 heures de live pour se livrer à des débats, des sessions musicales et des émissions en tout genre avec des invités de marque. Pour ce second épisode, Mélanie Wanga, directrice des rédactions de Mademoiselle et Rocky, s'est lancée dans une masterclass sur comment débattre de féminisme et de racisme. Et oui, on s'est déjà toutes retrouvées face à des gens en désaccord avec nous, voire carrément de très mauvaise foi ou des relous hostiles. Alors elle nous donne des billes pour assumer notre politisation et apprendre à la défendre. Tout le long de cette masterclass, elle analyse des extraits sonores avec précision pour apprendre à débattre avec plus ou moins de calme en démantelant les techniques de rhétorique de nos opposants.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Wanga, je suis la directrice de la rédaction de Mademoiselle et de Rocky. Je suis arrivée cet été à la direction. Et je suis aussi une féministe hystérique. c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis longtemps dans le cadre de mon métier de journaliste. Donc féminisme et antiracisme. Et j'avais envie, pour ce créneau d'une heure, qu'on discute un petit peu de la parole féministe et antiraciste. On s'est tous un peu, je pense, retrouvés dans des débats un peu vaseux au cours de soirées face à des gens qui nous voulaient nous parler de féminisme ou d'antiracisme. Et je trouvais ça intéressant de parler des arguments qui reviennent souvent. Et notamment aussi observer comment on en parle dans l'espace public, donc à la télévision, dans les débats. Et du coup, j'avais eu envie de faire un petit react. Donc, on va regarder quelques vidéos ensemble et on va réagir. Et je vais aussi lire vos commentaires sur le chat. Donc, je suis assez contente de faire ça avec vous. Alors, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a quelque chose que je veux remettre en contexte pour commencer. Donc, moi, je suis arrivée sur Twitter il y a très longtemps, en 2009. À l'époque où on était 150 sur le site en France, j'étais tête brûlée parce que je voulais déjà débattre de féminisme et d'antiracisme en 2009 sur Twitter. Je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. Je voulais pas bloquer les gens parce que je me disais non, tout le monde a le droit de s'exprimer et de donner son avis. Autant vous dire que j'ai changé d'avis depuis. Donc il y a quelques règles pour moi que je m'applique pour moi. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces règles-là dans le cadre des débats féministes ou antiracistes, mais c'est toujours intéressant. Ma règle numéro un, c'est de pas débattre avec des gens qui, de mauvaise foi, qui veulent juste vous prouver que vous avez tort. Parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. En fait, on se laisse baiter, quoi. On se dit, ah, cette personne, elle nous dit qu'elle aimerait bien être féministe, mais qu'il y a des trucs qui la gênent dans le féminisme. Donc, on va parler de féministe, en fait, avec une personne qui n'en a strictement rien à faire et qui veut juste vous prouver que le féminisme, c'est une mauvaise chose et que ça ne devrait pas exister et que tout va bien et que l'égalité est déjà atteinte, etc., etc. Un deuxième point que je trouve qui est assez important, qui a été popularisé par Marie Da Silva, qui est une coach pour personnes racisées en entreprise, donne ce conseil aux personnes racisées, qui est de ne pas débattre de votre humanité. En ce moment, on est quand même dans une ambiance un peu pesante en termes de questions autour de la race, de la religion en France. Et souvent, quand on est la personne racisée au bureau, on arrive, on nous dit « Mais toi, tu penses quoi des attentats ?» Et en fait, c'est clairement un piège. c'est clairement quelque chose pour vous attirer et vous amener à vous justifier, en fait. « Mais moi, je suis contre les attentats, tu sais. » Et en fait, là, on entre dans la négociation de sa propre humanité quand on fait ça. Parce que pour certaines personnes qui sont pas concernées, c'est toujours le souci. Pour les hommes, par exemple, quand on parle de féminisme, ou pour les personnes blanches, quand on parle de racisme, qui sont en fait les deux catégories en position de domination, en tout cas qui ne sont pas discriminées parce qu'elles sont blanches ou qu'ils ne sont pas discriminées parce qu'ils sont hommes, mais pour ces personnes-là, ces débats, ça peut vite devenir une joute oratoire. une manière de discuter, de dire « Ah, moi, je suis pas d'accord !» Alors que pour les personnes qui sont en situation de domination, donc les femmes dans le cas du féminisme et les personnes racisées dans le cas du racisme, ben en fait, c'est pas juste un débat, c'est pas juste une discussion pour savoir « Ah, je suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que... » C'est en fait, on parle de notre vie. Donc voilà, ne pas débattre de son humanité, donc ne pas se lancer dans des débats où on sait qu'en face, les personnes vont nous nier. Un troisième point aussi que je trouve intéressant, c'est qu'il faut se rappeler que si vous dites « Alors moi, je suis pas militant ou moi, je suis pas politisé, moi, la politique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse », en fait, vous l'êtes déjà malgré tout, et je pense malgré vous, parce que, en gros, si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes pour le statu quo, pour la situation telle qu'elle est actuelle. Si vous n'avez pas envie de changer la situation actuellement, si vous trouvez que tout va bien pour les femmes et tout va bien pour les minorités, ça veut dire que vous êtes pour la situation actuelle et donc vous êtes politisé parce que vous êtes pour la situation politique actuelle. Donc ça, je trouve ça intéressant et je pense que c'est une manière de voir les choses qui permet de recontextualiser de manière assez intéressante. Quatrième point que je trouve intéressant, parfois, il y a des personnes qui sont courageuses et qui vont porter les valeurs féministes et antiracistes dans des milieux qui sont assez hostiles. Donc là, on va voir les plateaux télé ou on va voir aussi différents types de débats. Donc c'est des milieux qui sont parfois misogynes et parfois racistes. Et donc je trouve que c'est important de soutenir ces personnes-là. Et de que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers les messages que vous pouvez les envoyer. Si vous voyez quelqu'un qui a tenu un discours qui vous a paru important, je pense que c'est important aussi de votre part de montrer à ces personnes qu'elles sont soutenues. Parce qu'elles se prennent une grande violence généralement. C'est une grande violence de débattre face à une personne antiféministe ou face à une personne qui soutient des idées racistes. Et enfin, je voulais revenir sur quelques lieux communs qu'on entend souvent autour du féminisme et de l'antiracisme qui me font un peu rire. Mais ça, c'est le côté, ça fait longtemps que je débatte ça fait plus de 10 ans. Donc au bout d'un moment, on acquiert une espèce de... On est un peu blasé, quoi. On se dit, bon, est-ce que j'ai pas fait le tour? Mais en fait, les personnes qui sortent des arguments antiféministes ne se rendent pas compte que c'est des arguments qui sont vus et revus et revus et qui, en fait, tiennent pas vraiment la route. Par exemple, je suis pas féministe, je suis humaniste. Il y a plein d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet-là. C'est pas du tout un argument, en fait. Je suis pas féministe, je suis humaniste. Ça veut pas dire grand-chose, en fait. Et le féminisme est lui-même un humanisme. Donc, je pense que c'est important à noter. Il y a l'argument des féministes, c'était mieux avant. Les féministes avant, elles étaient sympas. Quand on sait que, par exemple, les suffragettes anglaises posaient des bombes chez les gens pour pousser au droit de vote pour les femmes, je pense qu'il faut arrêter de disneyifier et d'idéaliser le passé. En fait, probablement, les féministes de l'époque, vous auriez pas été d'accord avec elles si vous êtes pas d'accord avec les féministes actuellement. Faut arrêter de penser que on obtient des droits en étant sympa et en demandant gentiment la plupart du temps. Quand on obtient des droits, c'est après des manifestations collectives. Après un mouvement populaire, c'est pas en disant s'il vous plaît. Et donc voilà, il faut pas idéaliser le passé, je pense. Et au sujet du racisme, on dit souvent que parler de racisme, c'est se victimiser. Arrêter la victimisation, arrêter de parler de racisme. Donc ça, c'est aussi assez problématique. Tout comme dire que parler de son agression ou de son viol, c'est de la dénonciation. Voilà. Donc ça, c'était le petit point contexte que je voulais faire au début. Et maintenant, on va passer au point débat. Donc, j'ai sélectionné quelques vidéos et je vais regarder un peu ce qui se passe dans le chat. Donc, oulala, il y a beaucoup de choses. Hop, ok. Bon, je vois pas trop de questions pour l'instant, mais j'y répondrai après. Et on va lancer le premier débat. Donc, là, on parle, pour vous resituer, de tribune sur le harcèlement. C'était il y a quelques années. Il y avait une tribune dans Libération qui était sortie au moment de l'affaire MeToo. Quand MeToo est sorti, en disant « Mais la liberté d'importuner, les hommes ont le droit de nous mettre des mains aux fesses dans le métro parce que c'est la liberté pour les femmes d'être importunées. » Donc, je vais mettre juste un extrait de cette vidéo et on va pouvoir en discuter après.
Weinstein, d'ailleurs, la première de ces tribunes, signée par une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, s'intitule « Des femmes libèrent une autre parole ». Vous en êtes l'une des auteurs. Bonjour Abnous Chalmani.
Bonjour à Patrick Cohen.
Merci d'être là. Face à vous, celle qui vous répond ce matin dans une autre tribune, les ports et leurs alliés et ES ont raison de s'inquiéter. Bonjour Caroline de Haas.
Bonjour.
Abnous Chalmani, expliquez-nous d'abord ce que vous avez voulu dire. La liberté sexuelle serait menacée par une forme de puritanisme?
Voilà, c'est tout ce que nous avons voulu dire et je vois que la tribune, c'est « Nous défendons une liberté d'importuner ». C'est le titre de la tribune est très clair, c'est « Des femmes ». Donc nous ne faisons pas de généralité. c'est une autre parole et des femmes. Donc c'est pas du tout pour annuler la parole qui existe. Nous sommes pour la parole, mais contre le retour moral. C'est vraiment ça. Donc ce n'est même pas une différence radicale. C'est que nous sommes pour libérer la parole, nous l'avons dit. Personnellement, j'ai écrit un livre en 2014 où je raconte une agression sexuelle, où je le dis et où j'exhorte les femmes à prendre la parole. En 2015, j'ai fait une conférence TEDx où je fais exactement la même chose. Nous sommes toutes contre les violences sexuelles et contre le viol qui est un crime et contre le harcèlement qui est un délit.
Mais ce que vous dites, c'est que la libération de la parole de ces dernières semaines a eu ses excès.
Alors, c'est le second effet. Alors, c'est ça, c'est que ce n'est pas la libération de la parole qui a provoqué ça, c'est un second effet, c'est un deuxième mouvement qui a décidé de réfléchir à comment on pouvait régler le problème de harcèlement et de violence envers les femmes.
Et déjà, là, je peux faire un petit point. C'est une stratégie rhétorique que Abnou Salmani a utilisée, qui est de s'aligner avec la personne avec qui on débat, en disant, mais en fait, on est un peu pareil. C'est juste que vous allez trop loin par rapport à ce qui est juste. Et moi, par contre, je suis là où il faut être. Et c'est une stratégie rhétorique assez maligne et assez intéressante, parce que vous allez voir qu'après, ça va complètement dévier.
Et les solutions proposées sont de l'ordre du puritanisme et de la morale. Et nous pensons que ça, c'est un retour en arrière, c'est une réaction et c'est un retour dans l'histoire obscure des femmes.
Et les réactions ont été
extrêmement violentes et nous attendions absolument pas à ça.
Dès hier, Caroline De Haas, les porcs et leurs alliés ont raison de s'inquiéter. Ce sont des alliés des porcs qui ont signé cette tribune, c'est ça que vous dites ce matin ?
À chaque fois que vous prenez la parole pour banaliser des violences ou pour expliquer par exemple qu'une agression sexuelle, puisque dans la tribune signée dans Le Monde, on parle de frotteurs dans le métro. En fait, ça s'appelle une agression sexuelle, hein, c'est puni de 5 ans de prison. C'est considéré par la justice française, par la nation, comme un fait grave. À chaque fois que vous banalisez ou vous délégitimez en fait ces violences-là, moi je pense qu'en effet, vous laissez plus de place aux agresseurs et moins de place aux victimes. Dans cette tribune qui a été publiée dans Le Monde, on retrouve en gros tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'on scoltine tous les jours à la machine à café au bureau ou dans les repas de famille. Vous savez, cet oncle un peu gênant qui vous dit « mais on peut plus rien dire », etc. Ça s'appelle des idées reçues. D'abord, on peut dire encore beaucoup de choses. Il y a encore malheureusement, moi je pense, beaucoup de choses racistes, sexistes, homophobes qui peuvent être dites dans des médias ou dans la parole publique. Et puis l'autre élément, c'est que le fait que, je mets des guillemets, on puisse plus rien dire, ou en tout cas on puisse moins dire de choses qu'avant, pour moi c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on puisse plus dire aussi facilement qu'avant dans un média, dans une conversation entre amis, non mais quelle salope celle-là quand même, le fait qu'on puisse plus moins le dire qu'avant, on peut encore trop le dire, hein. C'est quand même, à mon avis, une bonne nouvelle.
Ou la mauvaise blague de Tex sur l'œil au beurre noir de...
Non mais c'est pas une blague en fait, c'est oui, ça qui est intéressant. C'est-à-dire
la mauvaise
que,
blague.
Ouais, la mauvaise remarque, c'est une remarque en fait qui montre à quel point on méconnaît aujourd'hui la réalité des violences.
Je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est deux idéologies qui s'affrontent, deux idéologies féministes qui s'affrontent. Et il y en a une qui dit, voilà, moi, je suis féministe, mais vous allez trop loin. Et en face, on a une féministe qui rappelle des faits. Et je pense que, par exemple, si vous êtes en débat avec quelqu'un qui vous dit, voilà, non, mais moi, tu sais, je suis féministe, c'est juste que maintenant, je pense que vous allez trop loin. Et comme Abnou Salmani le dit, en fait, finalement, la liberté d'importuner, la liberté de toucher les femmes dans le métro, la liberté d'être dans la rue et de siffler des femmes, finalement, c'est pas si grave. C'est bien d'arriver, en fait, avec des faits, des chiffres, comme le fait Caroline De Haas. Là, elle arrive carrément avec un chiffre. Elle dit, en fait, c'est une agression sexuelle et c'est 50 prison. Parce que du coup, comme on est dans l'idéologie, dans le domaine des idées, si quand on arrive avec des faits, après bien sûr on peut interpréter les faits comme on veut, hein, mais quand on arrive avec des faits, que c'est considéré par la loi comme une agression et que donc c'est puni par la loi, généralement ça permet aussi de faire avancer le débat, de dire non en fait c'est pas acceptable, voilà pourquoi. Donc c'est aussi une manière de pouvoir répondre à quelqu'un qui vous dit que finalement les féministes vont trop loin et que qu'en fait il faudrait quand même accepter quelques trucs parce que c'est pas si grave. Donc ce que j'aimerais, cette vidéo elle dure un peu longtemps, donc ce que j'aimerais c'est qu'on enchaîne sur une autre vidéo qui est donc Philippe Besson qui parle du livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, qui est sorti il y a pas très longtemps. Je lis les commentaires en même temps. Et donc voilà, et qui parle du livre d'Alice Coffin. Donc on va y revenir. Je vais juste répondre à 2-3 questions. Il y a Louise Petrouchia qui dit ce qui est difficile, je trouve, c'est d'être toujours dans le factuel pour dire j'ai fait mes devoirs. C'est une vraie question. Et c'est surtout très très difficile de garder son calme également, de face à une personne qui dit non, mais bon, moi je suis pas d'accord parce que voilà, je pense que, et soi-même en face d'arriver calmement avec les chiffres et de dire non, mais tu vois, en 1973, il s'est passé ça. Et d'ailleurs, c'est puni par tant d'années de prison. C'est difficile, mais en vrai, c'est un vrai atout. Donc, si vous avez envie de retenir 2-3 chiffres comme ça pour en soirée pouvoir les ressortir, je peux vous garantir que c'est assez efficace. Mais clairement, c'est du taf. Et oui, on a Ousabine qui dit « C'est clair, j'ai la vache tendance à m'emporter et à finir par des insultes. C'est la croix de toutes les féministes. » Mais moi, en même temps, avec l'âge, je me dis « On a le droit d'être en colère. » Avant, j'avais très très peur de passer pour quelqu'un qui se mettait en colère pour ces sujets-là. Mais en fait, en vrai, notamment la colère chez les femmes, c'est vu comme de l'hystérie tout de suite. Mais en vrai, on a le droit d'être en colère sur ces sujets-là. C'est des injustices très graves, et que ce soit pour le sexisme ou le racisme, c'est des choses qui méritent qu'on se mette en colère pour elles, en fait. C'est juste que, dans le cadre d'un débat, effectivement, la personne en face peut retourner cette colère contre vous et dire « Hey, je peux pas discuter avec toi, tu te fâches trop, t'es en colère trop vite. » Alors, on a un commentaire de Wolston qui dit « Mélanie, je n'ai jamais entendu un frotteur dire « j'ai un droit de frottage, merci de me laisser vous frotter ». Non, mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des femmes qui ont dit « moi, j'aime qu'on me siffle dans la rue et j'aime qu'on se frotte à moi ». Et pour le coup, dans la tribune, c'était ça aussi qui était très drôle, c'est que c'était Catherine Deneuve et des femmes relativement aisées. Enfin, moi, je suis désolée, mais j'imagine très mal Catherine Deneuve sur la ligne 11 le matin pour aller au boulot, quoi. Donc, je pense pas qu'elle prenne très souvent le métro. Et donc, c'est aussi pour ça que cette tribune a été très, très rejetée quand elle est sortie. C'est que c'était la voix d'un féminisme bourgeois qui disait « Ah non, mais attendez, c'est quand même super qu'on nous considère comme des femmes. » Alors qu'en fait, la voix des femmes, c'était quand même... Qui avait pris la parole dans MeToo, c'était quand même des femmes qu'on n'entendait pas et qu'on n'écoutait pas avant. Toutes les femmes ne sont pas Catherine Deneuve. Toutes les femmes passent pas aux 20h de TF1 pour parler de leur expérience. Donc voilà. Donc on va faire un petit point sur Alice Coffin et le coup de griffe de Philippe Besson. Parce que du coup là, c'est pas un débat, donc il parle tout seul, mais je pense que c'est intéressant d'écouter ses arguments.
Vous arrêtez.
Je suis très en colère.
Écoutez, je vous ai dit, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour, et ce soir, c'est l'écrivain et essayiste Philippe Besson, le grand Philippe Besson qui est avec nous, j'allais dire, comme chaque lundi. Salut Philippe.
Bonsoir Julien.
Bien, alors cette semaine, Philippe, vous souhaitiez nous parler d'Alice Coffin, cette élue écologiste au Conseil de Paris, qui était d'ailleurs à ce micro, ici même dans le studio d'Europe 1 ce matin, et qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Le combat féministe qu'elle mène paraît radical à certains, et vous en faites partie.
Oui, alors disons d'emblée, Julien, que sa cause, évidemment, est juste et nécessaire. Il faut, bien sûr, dénoncer le sexisme au quotidien, combattre sans relâche et sans faiblesse les violences sexuelles et conjugales dont les femmes sont victimes. Il faut aussi corriger les inégalités salariales et assurer aux femmes les mêmes droits et la même visibilité qu'aux hommes.
Quand ça commence comme ça, on sait qu'il va y avoir un mais quelque part.
Oui.
Bon, voilà, il le dit lui-même, c'est une stratégie rhétorique. Donc... très intéressant à observer que c'est systématique.
Oui, le mais arrive. C'est-à-dire qu'à un féminisme universaliste et humaniste, Alice Coffin préfère opposer un féminisme de suprématie qui passe par un combat frontal contre les hommes. Et là, en effet, on peut ne pas être d'accord.
Juste un petit point sur le féminisme universaliste. J'aimerais bien savoir c'est quoi votre avis sur cette question, parce que, évidemment, j'en ai un, mais j'aimerais avoir le vôtre. Vous en pensez quoi du féminisme universaliste ? Je suis peut-être en décalage, ça va peut-être prendre du temps. Bon, bah du coup, je vais donner mon avis, c'est pas grave. Alors, le féminisme universaliste, c'est le féminisme de nos aînés. J'ai quand même l'impression... Alors, le féminisme... Ah, vous savez pas ce que c'est. Alors, je vais définir, effectivement. Féminisme universaliste, c'est un féministe qui dit toutes les femmes sur la Terre entière devraient jouir des mêmes droits que les hommes. Ce qu'on définit comme féminisme universaliste, c'est quand même quelque chose qui vient, qui est assez franco-français, parce que c'est un truc qu'on aime bien, l'universalisme en France, qui est de dire, voilà, on est tous français, on est tous égaux, et donc on ne voit pas de différence entre les citoyens, ce qui paraît tout à fait cohérent. Sauf qu'en fait, le féminisme universaliste va dire que dans d'autres pays, par exemple, où des femmes qui ne sont pas françaises ou qui ne sont pas catholiques, qui est quand même la religion dominante en France et en Europe, eh ben en fait, on doit s'aligner sur ce modèle-là. qui est quand même la femme occidentale, blanche, hétérosexuelle, bon, voilà. Et en fait, le problème du féminisme universaliste, c'est qu'il ne reconnaît pas que parfois, il peut y avoir des différences culturelle ou religieuse ou, par exemple, là on va le voir dans le cas d'Alice Coffin, de sexualité. En fait, le problème du féminisme universaliste, c'est que par exemple, il reconnaît pas que les femmes noires ou les femmes racisées en général peuvent avoir une expérience de vie différente des femmes blanches. Et donc, le féminisme universaliste s'oppose notamment au port du voile. Il dit parce que voilà, nous, dans l'universalisme à la française, c'est que tout le monde est pareil. Et donc, les pays où les femmes sont voilées, c'est inacceptable. Et elles devraient l'enlever pour... voilà. Ce qui est une manière de voir les choses, mais ce qui est aussi enfin, pour toutes les femmes, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, Malala, elle porte le voile. Est-ce que c'est cohérent de dire oui, mais tu n'es pas une vraie féministe parce que tu portes un voile? Enfin, voilà, c'est vraiment cette question-là. Du coup, alors, il y a par exemple, Dapé Noirman nous dit « C'est une notion qui me paraît très ethnocentrée. De manière générale, l'universalisme me paraît paradoxalement très ethnocentré parce que c'est la notion de liberté n'est pas la notion de liberté n'est pas la même selon les cultures. On a Grand Freud qui nous dit « Vu les inégalités sociales et les écarts de richesse n'ont jamais été aussi exacerbés, je pense que rester sur un modèle de féminisme universaliste repose sur un déni de la lutte des classes. » Dai Columson nous dit « Le féminisme intersectionnel est important selon moi. Par exemple, le féminisme blanc ne peut pas comprendre la misogynie noire. » C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le féminisme, il n'y a pas qu'un féminisme, il y en a plusieurs. Il y a des grandes lignes de fracture en fait, au sein du féminisme. Il y a notamment la question du voile, la question de la prostitution, la question aussi du porno. Voilà. Est-ce que c'est féminisme ou pas ? Est-ce que c'est féministe ou pas le porno ? Est-ce que c'est féministe ou pas la prostitution ? Enfin, voilà, c'est des vraies fractures, des vraies questions. Mais le problème du féminisme universaliste, c'est qu'il dit, bah voilà, on a la réponse, et la réponse, c'est celle-là. Et donc, forcément, ça pose problème, notamment, effectivement, dans le cas d'Alice Coffin.
Caroline Forest, par exemple, est tout simplement, je cite, hein, atterrée par cette approche binaire, excluante et revancharde qui abîme des années de révolution subtile et qui flatte les clichés antiféministes.
Et on lui reproche, Philippe Besson, d'être misandre, c'est-à-dire de détester les hommes. Ce n'est pas excessif quand même un peu?
Faut reconnaître que ces déclarations ne plaident pas pour elle. Hein. Quand elle dit « moi, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée », elle est elle-même dans l'excès. On a le droit de lui rétorquer que si les hommes sont violents, la majorité d'entre eux ne le sont pas.
Petite pause. Est-ce que quelqu'un peut me dire... J'ai l'impression de faire un cours, mais ce qu'il vient de faire, je pense que beaucoup de féministes ont fait les frais de cet argument, qui est que, évidemment, il y a des viols, évidemment, il y a des femmes battues, évidemment, il y a des choses horribles qui se passent, conséquences de la domination masculine sur les femmes. Mais en fait, c'est pas tous les hommes, quand même. Not all men, quoi. Il y en a quand même des biens. Ce qu'on remet pas en question, en fait, mais c'est aussi quelque chose qui permet de complètement évacuer le souci en disant, en fait, si on n'est pas tous comme ça, du coup, ça va. Il n'y a pas besoin d'en parler. et en fait, c'est quand même, moi, j'en peux plus, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Voilà, effectivement, comme vous dites dans le forum, dans le chat, elle est dans l'excès, elle est revancharde. Voilà. Donc, effectivement, c'est pareil, c'est comme Louise dit dans le forum, lui, il vient avec aucun chiffre. C'est vraiment quelque chose que lui, il ressent. Et je pense aussi qu'on peut faire un point misandrie-misogynie. Donc, la misogynie, effectivement, c'est la haine des femmes, donc la discrimination envers les femmes. Et la misandrie, c'est donc la haine des hommes. Enfin, le terme a été construit de cette manière-là. Il y a une définition que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est une définition qui colle au racisme, mais je pense qu'on peut aussi coller à la misogynie, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir discriminer, il faut effectivement avoir l'idée et avoir les moyens de le faire. Donc par exemple, la misogynie, c'est les hommes n'aiment pas les femmes et ont le pouvoir de les discriminer. Donc là, ça fait la misogynie. Le problème avec la misandrie, c'est que dans le cas d'Alice Coffin ou même de Pauline Hermange, avec moi, les hommes, je les déteste, le livre qui est sorti il y a quelques semaines, leur posture idéologique, c'est moi, j'aime pas les hommes parce qu'ils me font chier. Voilà, j'aime pas les hommes parce que viol, parce que agression, parce que oppression des femmes. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que Pauline Hermange ou Alice Coffin ou même les femmes en général, en tant que classe femme, ont le pouvoir d'opprimer les hommes à grande échelle. Et en fait, la réponse, c'est que non, en fait. Enfin, techniquement, non. Et que parce que du coup, la société n'est pas construite de cette manière-là. Et du coup, comme les femmes n'ont pas le pouvoir d'opprimer les hommes, la misandrie, c'est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, moi, je le vis beaucoup plus comme des mèmes sur Internet, en fait. Comme des mèmes sur Instagram avec des filles qui disent misandrie en rigolant. Mais dans la vraie vie, enfin, un homme n'est pas discriminé parce que... Enfin, quand il va aller au travail, quand il va postuler à un job, il ne va pas être discriminé parce que c'est un mec, il ne va pas être moins payé parce que c'est un mec. En fait, c'est vraiment... La mécanique, c'est l'idée, l'idéologie plus le moyen d'action. Et là, c'est pour ça, il va parler de misandrie beaucoup, et pour moi, ça tombe un peu à plat.
Elle a également écrit, je cite, « Il faut éliminer les hommes ». Vous avouerez qu'il y a de quoi sursauter. Imaginons un instant qu'un blanc écrive « Il faut éliminer les noirs », qu'un noir écrive « Il faut éliminer les blancs », qu'un athée dise « Il faut éliminer les juifs », ou que qui que ce soit d'ailleurs dise oui. « Il faut éliminer les lesbiennes ». Nous serions tous, et à juste titre, horrifiés et scandalisés.
Donc voilà, ça s'appelle une fausse équivalence. Ce qui nous dit, mais imaginez si les blancs disaient « Il faut éliminer les noirs ». Déjà, numéro 1, ça s'est déjà passé. Ça, c'est le petit détail, c'est que ça a déjà eu lieu. Imaginons que les Noirs diraient qu'il faut éliminer les Juifs, etc., etc. Et là, en fait, il prend toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est une position qui est déjà ahistorique, parce que l'esclavage, parce qu'il y a eu un génocide envers les Juifs. Enfin, voilà, il y a vraiment, en fait, une forme de mauvaise foi intellectuelle. Dans le fait de dire, ben, et si les hommes ils disaient éliminons les femmes ou violons les femmes, enfin, c'est déjà arrivé malheureusement, et ça n'a absolument pas le même pouvoir. Quand on parle de quelque chose qui a déjà eu lieu historiquement, et qu'on dit, et imaginez si on faisait ça, ben ouais, mais en fait, c'est quand même chaud, quoi. Enfin, c'est très, très malhonnête intellectuellement, et ça fait quand même assez peur, quoi. Donc voilà.
Mais pour être tout à fait honnête, quand même, Philippe Besson, dans son livre, elle développe beaucoup plus en longueur sa pensée qu'elle vient de publier. Ce livre, il s'appelle « Le génie lesbien ».
Oui, un titre que Caroline Forest commente en ces termes. Le féminisme a du génie, le lesbianisme politique aussi. Mais on n'est pas génial parce qu'on est lesbienne, et je crains que ce livre ne le démontre. Du reste, Alice Coffin dit aux femmes « Soyez exigeantes, devenez lesbiennes ». Et là, ben là, je m'interroge. Donc, on peut devenir lesbienne, on peut se convertir. Mais alors, comment ça se passe? On suit un stage, il suffit d'appuyer sur un interrupteur, moi qui croyais bêtement que l'on ne choisissait pas sa sexualité. Par ailleurs, je déduis de l'injonction d'Alice Coffin que les femmes qui ne sont pas lesbiennes, et elles constituent tout de même une écrasante majorité, manquent d'exigence, elles feraient ainsi preuve de mollesse, de laxisme, de complaisance, je suis sûr qu'elles apprécieront. Et je me permets une digression personnelle, allez-y. Moi qui suis homosexuel et qui aime les femmes, qui aime leur compagnie, leur intelligence, leur humour, leur courage, comment je me débrouille, moi, avec cette guerre des sexes et des genres prônée, recherchée, voulue par Alice Coffin.
Alors, dans son ouvrage, Philippe Besson, elle précise ne plus lire de livres écrits par des hommes, regarder de films réalisés par des hommes, ne plus écouter de musique composée par des hommes, et invite les femmes à l'imiter. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Eh bien, ça signifie qu'on ne lira
plus...
Parce
qu'elle dit que le monde est fait par et pour les hommes.
Absolument. Eh bien, ça signifie clairement qu'on ne lira plus donc Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Paul Éluard ou Albert Camus. Qu'on ne regardera plus les films de Jean-Luc Godard avec Anna Karina, de François Truffaut avec Fanny Ardant, de Claude Sauté avec Romy Schneider, d'André Téchiné avec Catherine Deneuve. Ça signifie qu'on n'écoutera plus Brel chanter Ne me quitte pas, Ferré fredonner Joli môme ou Ferrat interpréter La femme et l'avenir de l'homme. Personnellement, je trouve ça dommage.
Alors là, on vient d'avoir une énumération d'underdogs, de gens pas connus, de gens qui ont été enterrés par l'histoire, évidemment. Non, c'est intéressant parce que moi, l'argument que je peux trouver déjà, qui est un argument très facile, c'est que il suffit de regarder les auteurs, par exemple, étudiés au bac pendant hyper 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 longtemps. Il n'y avait pas de femmes aux épreuves du bac, et ça ne dérangeait strictement personne. Donc en fait là c'est aussi une question de point de vue, mais oh là là, vous voulez qu'on arrête de lire des livres et qu'on arrête d'écouter de la musique faite par les hommes, ou de voir des films faits par les hommes. On peut rappeler par exemple aussi, si on parle de fait, qu'il n'y a qu'une seule femme qui a obtenu un Oscar, donc c'était Catherine Bigelow en 2010. Enfin voilà, là il parle de domaines qui sont où les hommes sont surreprésentés, c'est-à-dire que les hommes déjà sont plus édités, obtiennent plus de budget pour faire des films. Les hommes en gros ont plus de facilité à pouvoir créer et à pouvoir montrer leur création au monde parce que le système est construit comme ça. Et donc le fait de ne plus consommer de production masculine, ça ne veut pas dire qu'on empêche ces hommes-là de vivre, et ça ne veut pas dire qu'on empêche ces hommes-là de créer et de produire. Ça veut dire qu'on choisit de porter notre attention sur la production de personnes qui sont des femmes ou des minorités, qui en fait sont délaissées et sont par nature en fait moins mises en avant. Et enfin, je vois pas en quoi c'est dérangeant. Je sais pas. Enfin, le truc de dire oui, mais oh là là, ça veut dire que je ne pourrai plus lire Maupassant et je ne pourrai plus lire Victor Hugo. Enfin, on est parti quand même sur la planète Neptune là. Ça va pas du tout. mais bon, voilà. Tout ça pour dire que on n'empêche personne de lire des hommes, mais prioriser les femmes et prioriser les minorités dans ce qu'on consomme en termes artistiques, c'est pas une mauvaise chose en fait. Et ça rééquilibre peut-être un petit peu le jeu.
En revanche, on pourra toujours lire Gisèle Halimi qui vient de nous quitter. Elle disait « Le combat féministe n'emploie pas le terrorisme. Il n'élimine pas. Il ne fait pas de victimes. On a pour tâche de convaincre, de faire avec les hommes. » Voilà une saine lecture.
Bien, très bien.
Voilà. Du coup, je vais juste relire quelques réactions sur le chat. J'ai vu qu'il y a des accusations d'hystérie qui volent. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui dit en fait du coup on lira plus Philippe Besson et c'est pas une grande perte. Louise dit mais où elle est radicale dans ce qu'elle dit, mais il s'arrête. Elle a dit ça au lieu d'essayer de comprendre d'où elle vient, c'est un enfer. Pour le bac de français l'année dernière, on a eu la princesse de Clèves et Madame de Lafayette et c'était cool. Yes. Peut-être qu'elle disait de ne plus lire les hommes pour ouvrir les yeux aux femmes et les motiver à découvrir l'art fait par les femmes d'une manière générale pour montrer qu'il y a de quoi faire. Je ne la trouve pas très radicale pour être radicale, mais pour faire réfléchir et interpeller.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Eh bien, je suis d'accord. Je pense qu'on va avancer un petit peu. J'aimerais bien qu'on fasse un truc autour du racisme anti-blanc.
Mais vous pouvez aussi le qualifier de racisme. Mais
c'est... alors, on est sur le plateau Le Grand Oral avec Roca Diallo et Gilles-William Goldnadel. Oh, j'écorche les noms, je suis désolée. Et on va parler de racisme anti-blanc.
La définition même du racisme.
Je ne vois pas en quoi ça vous gêne.
Ça peut être crapuleux sans être raciste aussi. Oui,
lorsqu'un rappeur noir fait une chanson où il veut tuer tous les enfants blancs, j'ai un problème de vocabulaire si vous ne l'appelez pas raciste. Pardon.
Alors là, il fait référence à Nick Conrad. C'était en 2017, il me semble. Nick Conrad qui avait sorti une chanson qui s'appelait « Pendez les blancs ». Dans laquelle il effectuait un retournement en fait de situation où il faisait clairement référence à l'esclavage et aux guerres de colonisation en disant voilà si qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passerait si c'était l'inverse. Donc quelque part c'est un peu ce que Philippe Besson disait, mais qu'est-ce qu'on ferait si jamais on disait ça. Ben là cette chanson donc est sortie a fait vraiment scandale. Nick Conrad, le rappeur, a été condamné il me semble à 5 000 € d'amende et donc voilà, donc là pour le coup le monsieur tombe directement dans le piège de dire mais c'est raciste, sachant que en fait, la licence artistique en question était de retourner la situation et de retourner en fait les termes et l'idéologie en fait qui avait été utilisée pour justifier en fait la violence envers les Noirs.
Ok. Mais
pour moi, encore une fois, je tiens à le répéter, le racisme, ça a un sens historique. Le sexisme est dirigé contre les femmes, le racisme est dirigé contre des personnes qui sont minoritaires. Et ce n'est pas simplement des interactions isolées, ce sont des interactions qui s'inscrivent dans un prisme collectif. Donc on est d'accord pour dénoncer tous les actes de violence. Après, c'est la qualification qui me pose problème.
Avec l'esprit taquin qui me caractérise, je vous ai demandé, vous savez bien, sur Twitter, quand les fermiers, un fermier blanc est assassiné en Afrique du Sud, il est assassiné en tant que fermier ou en tant que blanc ?
Alors, moi, je me suis renseignée sur ce qui se passe en Afrique du Sud et il y a des fermiers noirs qui se sont fait tuer. Les fermiers qui se font tuer en Afrique du Sud sont tués en premier. Il y a des chiffres qui montrent que des fermiers noirs sont assassinés. Ils sont assassinés pour quelle raison ? Parce qu'ils sont riches. Alors effectivement, il y a une majorité de fermiers parmi les fermiers riches, il y a une majorité de blancs, mais il y a des noirs qui sont aussi agressés.
Donc là, Rokhaya arrive avec des chiffres, avec des faits. Et en face, on a quelqu'un qui dit « Oh oui, mais oh non, bon, bah ça colle pas avec ce que je disais, donc ça m'intéresse pas. » Mais c'est très intéressant, la situation en Afrique du Sud et en Afrique générale, parce que c'est un argument qui revient souvent dans les questions de racisme. On dit « bah franchement, arrêtez de vous plaindre, parce qu'en Afrique, les Blancs, ils sont super maltraités, ils sont victimes de racisme anti-blanc, etc. » Moi, je suis allée en Afrique quelques fois. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui y vont aussi, et on peut tous vous dire qu'en fait, les Blancs sont traités vraiment comme la royauté. C'est-à-dire que quand on est blanc, on rentre plus facilement dans des restos. Quand on est blanc, on est traité, on a un traitement de faveur. Parce que la blancheur, et ça, c'est après des décennies de colonisation et de suprématie blanche et d'idéologie raciste, les Blancs sont considérés comme étant mieux, comme étant bons, comme étant plus intelligents, plus riches, et que c'est normal en fait qu'ils aient cette forme de pouvoir parce qu'ils sont blancs. Et donc, dans toute l'Afrique, en tout cas dans ce que moi j'en ai étudié et dans ce que j'ai pu vivre, moi qui suis une métisse, hein, donc pas blanche, mais quand j'arrivais là-bas, j'étais vue comme une blanche et on me disait ah là là, les blancs, c'est génial. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place en disant, comme ce monsieur dit que les blancs sont discriminés. J'ai franchement pas l'impression que ce soit le cas. Et je pense que ce que dit Rokhaya est assez intéressant sur le fait que, pour le coup, on est plus sur une question de classe, de lutte des classes, que de racisme. Même si ça se passe en Afrique.
Regardez les chiffres, regardez ce qui se passe. Le fait d'être noir ne protège pas.
Vous êtes en train de compétition tous les deux, en fait, sur savoir qui.
Non, il n'y a pas de compétition.
Oui, c'est ça, pas de compétition.
Je veux que mon racisme blanc soit reconnu. Ah ben, attends, moi je.
Caricature.
Parce que là, à vous écouter, c'était un peu ça.
Mais William,
je
ne
dis pas du tout qu'il existe un racisme anti-noir.
Tu es très factuel. Non, mais tu es très factuel. En fait, le racisme, c'est une organisation, un système de pensée. Il faut à la fois qu'il y ait certes la répétition du fait raciste, mais il faut aussi que ça s'inscrive dans une histoire. C'est exactement la comparaison quand on dit il y a de la violence, il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Ça existe, mais ce n'est pas un système établi.
Eh bien, Étienne, j'affirme qu'au regard peut-être des ressentiments dans le passé et aussi d'une idéologie, est en train de s'installer, y compris en France, des phénomènes de racisme anti-blanc. On a toujours...
Donc ouais, le racisme anti-blanc, on a été coupé, je ne sais pas, je pense que la vidéo s'est terminée là. mais ouais, c'est intéressant parce qu'en fait c'est en plein dans les débats actuels, c'est cette question du fait de dire que maintenant il y aurait un racisme anti-blanc, donc comment il se manifesterait, donc ce serait que les personnes blanches seraient discriminées. Donc voilà. Là, du coup, on s'éloigne un peu du sujet qui est de débattre, et on va pas partir sur un cours de géopolitique. Mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que là, c'est un pur exemple de ce que fait du travail que fait Rokhaya Diallo, qui en fait d'arriver avec des chiffres, avec des faits, avec des choses vraiment carrées, et elle est systématiquement en face de gens qui eux n'ont pas de chiffres ou qui ont une idéologie et qui du coup la contredisent en disant bah juste je suis pas d'accord avec vous et comme vous allez pas dans mon sens je vais vous dire non mais en fait je m'en fous de ce que vous avez à dire quoi. Alors il y a des questions dans le chat. Bonjour, d'ailleurs pourquoi pour certaines personnes dire d'une personne qu'elle est métisse c'est raciste? Le métissage c'est une question très compliquée parce que en France et dans le reste du monde, elle n'est pas vécue de la même manière. Par exemple, je parlais du fait que quand moi je vais en Afrique, je suis perçue comme blanche. Quand je vais aux États-Unis, je suis perçue comme noire. Et en France, je suis perçue comme métisse. Du coup, c'est une question très 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 compliquée. En fait, le métissage, ça a une histoire un peu triste, un peu compliquée, parce que c'est souvent venu de. Enfin, le métissage, c'est souvent issu d'ancêtres qui ont été violés. Enfin voilà. Et en fait, pour certaines personnes, ça peut être perçu comme une insulte. Alors ça, je ne saurais pas dire. Moi, c'est pas le cas. Mais je pense qu'en France, on a un vrai travail à faire autour de ça parce que on est beaucoup à idéaliser le métissage, à dire mais c'est super, métisse, je suis un mélange de couleurs, tout va bien. Quand on sera tous métis, il y aura plus de racisme. Or, c'est pas vraiment la réalité des choses. Les personnes métisses, du coup, grandissent souvent dans des familles avec des personnes blanches et des personnes noires. Du coup, sont parfois victimes de racisme. Au sein même de leur famille, de la part des personnes blanches. Enfin, c'est très compliqué comme question à décortiquer, mais c'est un vrai sujet et je pense que c'est ultra intéressant. Il y a beaucoup de gens qui remercient Étienne dans le chat. Merci à lui, Étienne. Donc, il répète ce qu'a dit Rokaya. Ça, c'est très très intéressant et c'est très vrai. Il répète ce qu'a dit Rokaya parce qu'en fait, ça donne un poids. C'est-à-dire que face à la personne en face, ce que dit Rokaya, en fait, c'est oui, bon, ok, mais en fait, en vrai, on s'en fout un peu parce que c'est une femme noire. Quand c'est un homme blanc, donc quelqu'un qui le considère comme égal, qui lui répond la même chose, là, pour le coup, ça a plus de poids. Et du coup, on le voit un peu qui tremble sur les fondements, quoi. Il est plus très sûr. Donc, il nous reste 10 minutes. Pour terminer, je pense que je vais vous montrer et qu'on va reparler un peu de Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines qui est arrivé sur le plateau de Quotidien et qui, au calme, tout à fait dans le plus grand des calmes, qui n'a absolument pas été repris par la rédaction, a déroulé un imaginaire raciste, hein, on peut le dire.
Eh bien c'est ça ce à quoi je pense. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais plus si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse, la société. Oui, le livre.
Vous parlez Agatha Christie,
oui,
d'accord.
Oui, on a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. Mais c'est cette petite partie des élites qui se regardent dans une glace.
Ouf. Alors, on voit des gens qui se prennent la tête sur le chat. Moi, j'ai été profondément choquée par cette séquence. Il y a longtemps, et en 2007, il me semble, Nicolas Sarkozy avait fait un discours écrit par Claude Guéant, son conseiller à l'époque, en disant que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Et à ce moment-là, je me disais, waouh, c'est chaud quand même. Et en fait, je me rends compte maintenant, vraiment, qu'en fait, c'était pas juste un errement, c'était pas genre, il avait dit ça, mais en fait, il le pensait pas, il faisait ça pour avoir des voix. Non, non, c'est une idéologie raciste qui je pense, porte en lui. Mais ce qui est hyper intéressant, en fait, dans cette séquence, c'est effectivement, comme tu dis, Mimi, dans le chat, c'est le silence assourdissant, en fait. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça acceptable de laisser passer ce discours sans dire « Excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de comparer les personnes noires à des singes ?» En 2020, in this economy, c'est quand même très, très compliqué pour un média d'avoir quelque chose qui se passe comme ça et que aucun journaliste ne reprend. Quotidien, ils se sont souvent fait allumer quand ils postent des photos de la rédaction parce que majorité de personnes blanches, très peu de personnes racisées, donc très peu de personnes pour leur dire « Eh oh !» En fait, non. Évidemment que Nicolas Sarkozy aurait dû être contredit par quelqu'un qui lui mettait immédiatement le nez dans ce qu'il venait de dire. Comparer les personnes noires à des singes, c'est un grand classique, hein. On se rappelle des cris de singes sur les stades de foot ou des pots de banane ou pareil pour Christiane Taubira, cris de singe à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est un grand classique, c'est ultra raciste et ça peut passer à une heure de grande écoute sur un plateau français sans que personne ne dise rien. Donc voilà. Alors je regarde un peu ce qui se passe. Il se rend compte de sa connerie en le disant et continue de nager. Ouais, c'est un peu ça. On voit quand même que il y a quelque chose qui se passe et qui se dit ouh là 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 là. Et personne me dit ouais c'est vrai t'as raison. Donc là je suis peut-être en train de dire un truc chaud. À plusieurs reprises, c'est même pas une gaffe. Et oui, effectivement, on voit quelqu'un qui secoue la tête au premier plan, mais secouer la tête et dire quelque chose, ce n'est pas la même chose. Même tonton Dédé bourré dit pas ça. Je crois qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'ils disaient aussi. D'où l'intérêt, là je presse pour ma paroisse, d'avoir des personnes racisées dans les rédactions françaises. Parce qu'en fait, quand on est racisé, on comprend immédiatement ce qui se passe.
et on laisse pas passer. Moi, je peux raconter une expérience. J'ai eu une expérience en entreprise, enfin assez longue et tout, et il m'est arrivé de faire face à des propos racistes dans des médias où je travaillais. Et en fait, enfin, c'est horrible. C'est vraiment, on sent l'intérieur de soi qui se gèle. Et on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Moi, j'ai pris l'habitude de me forcer à répondre. C'est pas facile. Je pense que c'est un peu pareil pour aussi les questions de sexisme. C'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment très important de le faire à votre manière, au fur et à mesure, à se débrouiller comme on peut. Mais faut pas laisser passer ce genre de discours. Du coup, il nous reste 7 minutes. Et pour finir, du coup, je voulais faire un petit bonus. En fait, j'ai deux bonus. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire tous les deux. Mais on va essayer. Donc, le premier, je pense que j'aurai le temps. Le premier, c'est 2017, le débat pour l'Élysée. Je pense que ça va nous remonter le moral parce que c'est vraiment Philippe Poutou qui parle de Fillon. Donc là, on est plus sur l'aspect lutte des classes. Mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. On dit ce qu'on a à dire. Et on dit les choses, comme dit la jeunesse actuellement.
C'est vrai que non, mais question de moralité politique, ouais. En politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonge. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et
il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions.
C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper.
Oh non, voilà. Bon. Pas du tout.
Donc,
premier coup de poing, j'adore. On a le droit de parler même si on n'a pas de cravate.
La question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux, clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème
Poutou,
de ce côté-là. Là, après, vous
monsieur
pourrez
Poutou,
parler.
Non, mais Pierre,
vous pourrez parler
pas
après.
Comme ça.
Oui, non, d'accord.
Hein
oui.
Ah, merci.
Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système.
Tout ça pour dire qu'à la fin, il dit à Madame Le Pen, vous êtes une pourrie et que Madame qu'elle est pas allée, elle a été convoquée par la police, elle n'y est pas allée, elle ne s'est pas présentée. Et elle lui dit, ah bah là, vous êtes pour la police. Et il dit, oui, mais nous, quand la police nous appelle, on est des ouvriers, on y va, on n'a pas d'immunité parlementaire. Et donc là, la foule en délire, tout le monde l'applaudit. J'ai juste mis ce petit bonus parce que je trouve ça intéressant de montrer que parfois, il faut, enfin, en fait, au bout d'un moment, quand on en a marre, on a le droit de dire ce qu'on pense, quoi, même dans un débat. Surtout si on est dans une soirée où on sait qu'on ne verra pas forcément la personne. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Hein. Et oui, le meilleur moment a été coupé. Tout le monde est dégoûté dans le chat. Sachez que je le suis également. Et pour finir, là, c'est vraiment la dernière. Je trouve que c'est aussi une bonne illustration. Donc là, c'est Christiane Taubira qui parle de Gérald Darmanin, il y a 5 ans, après qu'il ait dit qu'elle était un tract ambulant pour le FN. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, Tata Christiane, elle a une vision, c'est phénomène Raven, quoi. Elle savait avant nous ce qui se passait avec Darmanin. Donc voilà, juste pour le plaisir des yeux.
Lorsqu'une personne a autant de toiles d'araignée dans la tête, lorsqu'une personne est absolument incapable de comprendre la société française, de comprendre son histoire, de comprendre sa composition, sa force et sa vitalité, lorsqu'une personne est absolument incapable de s'attacher à un certain nombre de principes qui sont fondamentaux et qui ont construit justement la nation française, lorsqu'une personne est inculte à ce point, lorsqu'une personne est à ce point pauvre, indigente, moralement, politiquement, culturellement, lorsqu'une personne est à ce point indifférente aux dégâts considérables qu'il peut produire par ses paroles, qui sont des insultes incontestablement, mais qui sont surtout des déchets même de la pensée humaine, moi je n'en attends rien, je n'en attends vraiment rien. Lorsqu'une personne...
Donc, ce qu'on peut juste souligner dans ce moment, qui est quand même un des moments préférés à regarder quand ça ne va pas, c'est effectivement la gradation que j'ai vue dans le forum, dans le chat. Pourquoi je dis forum?
depuis en 2003. Il y a vraiment une gradation dans les insultes qui restent toujours quand même très littéraires et très travaillées. Je trouve que c'est, moi je suis admirative de la manière, de la langue littéraire de Christiane Daubira, et même dans l'insulte, elle reste très très poétique, et ça c'est quelque chose qu'on peut souligner. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit sourire à la fin qui me remplit de joie une fois qu'elle l'a allumé. Et effectivement, il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'était Mimi qui disait rap battle, mais oui, Christiane Taubira, Booba, même combat. Allez-y. Voilà, du coup, bah c'est la fin pour moi. Merci d'avoir été avec moi dans le chat. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a donné des billes, que ça vous a fait un petit peu réfléchir, sachant qu'on continue tous les jours à apprendre. Et voilà.